L'hebdo politique.
Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique. Vous êtes sur Radio Sensation. Ce soir, je reçois Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec-lès-Elbeuf, président de Rouen Normandie Tourisme.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.
Laurent Bonnaterre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes né en 1973 dans les vignes de Pessac entre Sesta et Bordeaux. Vous avez été directeur de cabinet de Laurent Fabius, à l'époque à l'agglo de Rouen qu'on appelait la Créa, membre du bureau à la métropole, Rouen-Normandie Invest. Vous êtes le nouveau président de l'office de tourisme de la métropole rouennaise. Vous avez la charge entre autres de l'attractivité du territoire pour le national et l'international au sujet de la métropole. Et vous êtes aussi le directeur général de Quevilly Habitat. On dresse votre portrait dans quelques instants.
L'hebdo politique sur Sensation Normandie.
Alors, monsieur Bonnaterre, est-ce que la carte de visite est bonne ou il manque quelque chose?
J'ai beaucoup,
la compléter.
J'ai beaucoup d'engagement, mais vous avez assez bien résumé les trois piliers de mon activité. J'ai d'abord et avant tout, et c'est très important pour moi, une activité professionnelle. J'y tiens énormément. Je trouve que c'est le socle sur lequel devrait se bâtir toute carrière, quelle qu'elle soit. C'est d'abord d'avoir un travail. Et depuis 5 ans, je suis l'heureux directeur général de Quevilly Habitat, un bailleur social de 10 200 logements sur la métropole rouennaise. Ça, c'est mon travail. Et il se trouve que les habitants de la commune où je vis, Caudebec-lès-Elbeuf, m'ont confié le mandat de maire il y a 4 ans. Donc, je suis leur maire. Et puis, en tant que maire, on siège à la métropole de Rouen, ce qui est normal. Et j'ai pris des responsabilités au fur et à mesure du temps sur l'attractivité, sur le rayonnement du territoire et depuis quelques semaines sur le tourisme avec la présidence de l'Office de tourisme.
Question toute bête, pourquoi ne pas avoir eu la compétence si elle vous aurait été éventuellement proposée de l'habitat ou de la politique de la ville plutôt que le tourisme?
Alors, pour le coup, ça aurait
c'était
été...
déjà pris, peut-être.
Surtout, ça aurait été un mélange des genres délicat puisque je m'abstiens de mélanger mon activité professionnelle et mon activité publique, sachant que, par exemple, je me suis donné comme règle personnelle que Quevilly Habitat ne construise jamais à Caudebec-lès-Elbeuf, ce qui serait tout à fait légalement possible, mais ce qui serait sur le plan éthique et moral assez discutable, c'est-à-dire que je serais des deux côtés de la table, le maire discutant avec le bailleur étant la même personne, ce qui évidemment n'est pas possible. Donc Quevilly Habitat ne construit pas et ne construira pas à Caudebec tant que j'en serai l'élu.
Un petit flashback politique. Soutien de Vincent Peillon au premier tour de la primaire de la gauche. Vous avez voté Macron au premier tour de la présidentielle. Est-ce que vous êtes conforté dans votre choix ou il y a des choses qui commencent à vous agacer actuellement?
Alors oui, vous avez la gentillesse de rappeler cette période qui était un peu une période trouble. Et pour ajouter, il se trouve qu'au premier tour de la primaire, j'avais fait ce choix de Vincent Peillon qui me paraissait être le plus conforme à mes idées. C'était une candidature qui a fini par être une candidature de témoignage. On n'était pas parti pour gagner, mais on a au moins défendu nos idées. Et au soir du premier tour de la primaire socialiste, j'ai fait le choix d'appeler, enfin, et surtout de dire que moi je voterais blanc entre une ligne qui me paraissait...
Benoît Hamon.
Hamon, qui n'était pas du tout et qui n'est toujours pas ma ligne politique. On voit d'ailleurs qu'il est en train de se, à mon sens, de se cornériser dans un côté qui ne me convient pas et une ligne politique qui ne me convient pas. Et la ligne, à l'époque, extrêmement dure de Manuel Valls, qui ne me convenait pas non plus. Donc j'étais un peu orphelin, je le suis d'ailleurs toujours. Je suis un membre du Parti Socialiste un peu triste et un peu orphelin en ce moment. Et donc j'ai fait le choix, effectivement, de voter Emmanuel Macron, de le dire publiquement, parce que vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de responsables politiques qui ont voté au premier tour Emmanuel Macron sans le dire. Moi, j'ai eu peut-être la naïveté de penser qu'il faut mieux dire ce qu'on fait, surtout quand on est un responsable public. Donc je l'ai dit, ça m'a valu...
Ça vous a porté préjudice ?
Ça m'a valu quelques déboires, mais rien qui remette en cause la nature de mon engagement public. Alors aujourd'hui, vous me posez la question et je vais y répondre très clairement. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce que fait Emmanuel Macron ? Non. Il y a des choses qui ne me vont pas, notamment quelques choix fiscaux sur l'ISF, récemment sur l'exit tax. Ça, c'est des choses qui ne me conviennent pas. Mais quand je prends ce qu'on appelle en anglais la big picture, quand je regarde l'image générale, je pense que ça va plutôt dans le bon sens. Et j'essaie toujours de mesurer l'action du gouvernement, l'action du président de la République, à l'aune de ce qui se passe dans ma commune. Et Caudebec-lès-Elbeuf est une ville qui va bien, qui va mieux, qu'on a développé, mais qui a connu pas mal de difficultés, qui a encore des difficultés dans certains quartiers, des difficultés sociales. je prends un exemple sur l'éducation nationale. Depuis 2 ans, nous n'arrêtons pas d'ouvrir des classes parce que nous dédoublons des classes de CP. D'accord. Et bientôt de CE1. Donc les élèves des écoles les plus en difficulté, entre guillemets, même si les difficultés à Côte-Bec ne sont pas très lourdes, mais les écoles qui en ont le plus besoin à Côte-Bec, les Elbeuf, aujourd'hui, les élèves vont apprendre dans des classes de 12 à 17 élèves au lieu d'apprendre dans des classes à 30. Et cette politique-là, elle me va parfaitement.
La gauche réapprend à marcher, elle se relève. Est-ce que vous êtes... on marche à côté d'eux ou vous êtes plutôt on marche ailleurs?
Je suis en introspection et en interrogation sur le devenir des partis.
Un observateur.
Oui, un observateur très actif, mais je pense que les partis politiques, peut-être pas pour tout le temps, mais au moins dans les 5 ou 10 ans qui viennent, je pense que les partis politiques tels qu'on les a connus ne structureront plus la vie politique et surtout ne structureront plus les élections locales.
D'accord.
Il se trouve qu'en 2014... il y avait une configuration à Côte-Bec-les-Elbeuf qui était un peu étonnante, puisque le maire sortant était ancien socialiste d'hiver gauche. Moi-même, j'étais identifié socialiste. Et donc, la campagne et l'équipe qui m'a entouré n'étaient pas une campagne politique. C'était une campagne sur un homme, des hommes, une équipe et sur une dynamique. D'accord. Et sur un rassemblement. Et c'est ce que j'ai fait à Côte-Bec. Et je pense qu'au fur et à mesure, on le voit de plus en plus. Et je crois que dans les grandes villes, y compris à Rouen, qui est un des enjeux de 2020 dans la région, les décisions de nos concitoyens se feront autour de projets, autour d'hommes, autour aussi de la capacité à mettre en mouvement la société civile, la vraie vie, les vrais gens. Non pas que les politiques ne soient pas des vrais gens. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi, je tenais à avoir un métier, à être très ancré dans la réalité. Mais quand même, il y a tout un tas de manières de faire de la politique. Je parlais récemment avec des élus d'un bord ou de l'autre. Il y en avait certains qui voulaient conquérir Rouen, d'autres qui voulaient conserver Rouen. On ne travaille plus en fief, en baronnie, en conservation, en bataille. Je crois qu'il y a un temps démocratique. Il faut confronter les projets. Ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que tout est égal à tout. Il faut à un moment mesurer les projets, les débattre. Les électeurs se prononcent. Et puis, quand les choses sont tranchées, on se met au travail. Et normalement, dans une vie politique, le temps de travail doit être beaucoup plus long que le temps de bataille.
Quelque chose de plus léger, vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus. Il existe un baromètre, soi-disant, qui repère les élus les plus influents par région sur Twitter, pour ne pas le citer. Le mois dernier, vous avez été classé le maire le plus influent de Normandie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, alors influent, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il se trouve qu'effectivement...
Vous êtes un Twitter addict?
Ouais. Alors, j'essaie de me sevrer du tweet. En fait, je tweete personnellement assez peu, j'écris très peu de tweets dans la journée, j'en écris un ou deux, donc ça prend du temps d'écrire son tweet, de réfléchir à ce qu'on met, la photo. Bon.
Mais c'est performant à chaque fois.
Alors, sans doute, mais il se trouve que je retweete beaucoup aussi, parce que comme vous l'avez souligné, je suis membre de pas mal d'instances qui participent au rayonnement du territoire, j'ai envie de faire partager aux gens qui me suivent, et puis par le système des hashtags qui permet d'aller très loin, ce qui se passe à la métropole, ce qui se passe dans le tourisme à Rouen, ce qui se passe sur Rouen Normand Invest, notre agence d'investissement, et donc voilà, j'ai tendance à retweeter beaucoup, et du coup ça fait monter mes statistiques.
D'accord.
Alors on est quelques-uns. Il y a le maire de Val-d'Oreuil, Marc-Antoine Jammet, Frédéric Sanchez. Voilà, on est quelques-uns en Normandie à tweeter un peu.
D'accord. On va faire une petite parenthèse au niveau de votre commune. La municipalité de Côte-Bec-les-Elbeuf veut faciliter l'implantation de professionnels de santé. C'est un sujet important en s'inscrivant dans un projet immobilier. Un dossier donc, qui porte sur les futures terrasses d'hôtels de ville. Un projet immobilier qui comprendra des locaux pour des professionnels de santé, pharmacie, un laboratoire, des logements en accession. C'est un engagement fort de la ville envers les professions médicales. Il était temps. On a perdu du temps aussi là-dessus.
Oui, oui. Mon prédécesseur, l'équipe municipale précédente, a passé son temps à constater la disparition des professions médicales. Je ne dis pas que c'est simple, hein, parce que nous-mêmes, on est confrontés à des difficultés aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais dans l'opposition, les six années précédentes, je constatais que les médecins fermaient, que la ville ne préemptait rien, qu'elle ne faisait pas de propositions. Je me rappelle des médecins qui étaient venus voir moi dans l'opposition pour essayer de trouver des solutions, alors que la majorité de l'époque ne les aidait pas. Donc, dès le début de notre mandat, avec mes collègues, avec notamment une adjointe qui s'occupe de ça plus particulièrement, on a voulu porter ce sujet. Là, nous avons ce projet immobilier qui est un projet juste en face de l'hôtel de ville, en plein centre-ville. Et le but, c'est d'abord de défendre et de regrouper les professions que nous avons aujourd'hui et, si possible, de ramener d'autres professions. Il se trouve que nous avons encore à Côte-Bec-les-Elbeuf des généralistes, nous avons des pharmacies, des labos. Donc, le but, en plus, en ce moment, vous savez que la question de l'accessibilité des locaux professionnels est une question prégnante pour tous les professionnels. Donc, nous allons leur offrir des locaux tout neufs, portés par une promotion privée qui leur permettra d'être en plein centre-ville, à côté du bureau de police municipale, en zone sécurisée.
C'est quoi, là? Infirmière, kiné
Alors voilà, aujourd'hui, nous avons sur un laboratoire médical et une pharmacie qui se réimplantent, et à l'étage, nous allons essayer au maximum. Et c'est pour ça que la ville a décidé d'acheter une case commerciale, entre guillemets, un bureau dans lequel on pourra louer à des professionnels de santé, ce
D'accord.
que vous disiez,
okay.
j'espère le plus possible.
La dynamique du commerce également à Côte-Bec, la ville a décidé depuis le début de ce mois de proposer une boutique à loyer progressif aux commerçants voulant s'installer. Alors comment ça marche cette histoire ?
Alors en fait, il se trouve que bon, le commerce de centre-ville de Côte-Bec-les-Elbeufs, comme dans beaucoup de centres-villes, souffre. Même si j'ai tendance à le souligner à mes concitoyens qui sont parfois pessimistes, que nous avons au centre-ville de Côte-Bec un niveau de commerce, notamment alimentaire, très haut. Nous sommes une ville qui a encore une poissonnerie en centre-ville. Il y a beaucoup, beaucoup de villes qui n'ont plus de poissonnerie. Nous avons des bons bouchers, des bons traiteurs, des bons boulangers. Nous avons un marchand de meubles. Bon, on a beaucoup de choses, mais il y a des choses qui manquent. Et il se trouve que la ville est propriétaire de quelques-uns de ses locaux. La plupart des locaux sont privés. J'ai pris d'autres initiatives sur les locaux privés. Mais avec l'équipe qui m'entoure, on a souhaité faire plusieurs propositions. Donc on a d'abord testé une boutique test qui marche très bien d'ailleurs, puisque nous venons au début du mois de mai, après un an de test, d'installer le commerçant qui avait testé son activité dans un commerce durable. Et du coup, nous libérons cette boutique test où nous installons un fleuriste nouveau, il n'y en avait D'accord. pas sur la commune. Donc ça, c'est la boutique test. Et ce dont vous parliez, les loyers progressifs, c'est un autre local qui était malheureusement libre depuis quelques mois. Et nous avons décidé, pour permettre à quelqu'un de solidifier son activité, de faire un loyer qui va monter progressivement jusqu'à un plafond qui sera un petit peu inférieur au prix du marché pour pouvoir faire une offre attractive. Et nous avons signé ces derniers jours avec un professionnel qui va s'installer prochainement. Donc voilà, nous nous battons pour notre centre-ville. L'enjeu principal pour l'attractivité commerciale du centre-ville de Côte-Bec, c'est de réimplanter une population avec un peu plus de pouvoir d'achat, ce qui n'était pas le temps ces dernières années. Évidemment, ça prend beaucoup plus de temps de reconstruire des logements, de ramener de la population nouvelle. Nous sommes une des communes qui gagne le plus d'habitants de la métropole en Normandie. Nous avons gagné 800 habitants en 5 ans, ce qui est beaucoup. Et il faut maintenant que ces habitants puissent s'installer dans des appartements ou des maisons de qualité okay. en centre-ville. Et naturellement, évidemment, comme chacun, ils ne feront pas toutes leurs courses au centre-ville. On a tous des pratiques différentes. On va sur Internet, on va dans les grandes surfaces. Mais ils auront près d'eux des commerçants D'accord. de proximité qui pourront faire travailler.
Est-ce que l'offre est suffisante, restaurant, hôtel, chez vous ?
Alors, hôtel, nous n'en avons pas. Il y en a à Elbeuf et à Cléon. Par contre, nous avons une offre de restauration à Côte-Bec et dans les communes alentours qui est très, très satisfaisante. Je vais les saluer parce que ce sont des amis et des très bons professionnels. Il y a un très bon couscous, le Hogar. Et puis, il y a un restaurant qui est connu très largement au-delà des frontières de Côte-Bec qui s'appelle le Poulet Grillé, qui est une rôtisserie portugaise qui fait Flores et les gens viennent de très loin pour manger D'accord. la viande merveilleuse de okay. José au Poulet Grillé.
Eh bien, on salue José. Vous avez signé récemment une convention avec l'EPI de Val-de-Reuil pour l'insertion des jeunes sur votre territoire. Alors, c'est un objectif supplémentaire pour l'accès à l'emploi. C'est obligatoire de passer par ce couloir-là ?
Ah non, c'est pas obligatoire du tout parce qu'il y a beaucoup de villes qui ne le font pas. Il s'est trouvé qu'un de mes conseillers municipaux, inspiré par l'exemple de la commune voisine d'Elbeuf, est allé voir à l'EPIDE. Il m'a incité à aller voir. Je suis allé rencontrer les gens de l'EPIDE qui font un travail remarquable. L'EPIDE, c'est un établissement national. Il y en a un certain nombre dans les régions françaises. Le nôtre est tout près, puisque Val-de-Reuil, Côte-Bec, c'est quelques dizaines de kilomètres. Et avec les moyens du ministère de l'Armée, parce qu'il y a quand même un côté très encadrant, ouais. et puis du ministère de l'Éducation nationale et de la formation, le but, c'est de tendre la main un moment à des jeunes qui sont un peu en déshérence, de leur offrir un cadre, une structure, de les accueillir en internat, de leur donner un petit pécule, petit, et de les motiver pour aller faire des formations. Et donc, moi, là, j'ai trouvé pour le coup une cohérence, puisque j'ai à la fois signé un partenariat à Côte-Bec-les-Elbeufs pour faire connaître aux jeunes de Côte-Bec-les-Elbeufs cette possibilité, pour les inciter à aller vers l'EPIDE. Et puis, j'ai signé, dans le même temps, parce que j'essaie d'être cohérent dans ce que je fais, un partenariat à Quevilly Habitat pour accueillir des stagiaires de l'EPIDE, pas forcément et sans doute pas des Côte-Becquais d'ailleurs, mais pour D'accord. faire connaître les métiers du logement social qui sont malheureusement trop peu connus et pourtant qui recrutent.
Laurent Balater, vous ne bougez pas, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission.
L'hebdo politique.
La municipalité de Côte-Bec-les-Elbeufs avait pris 135 engagements. C'était il y a 4 ans. Elle dit en avoir réalisé 71%. Je ne sais pas si le chiffre est exact. Donc, on reste 29 d'ici 2020. Entre autres, l'îlot Jules Ferry, la maison médicale, on vient d'en parler. Les tissages de Gravigny, d'après ce que j'ai compris, c'est en bonne voie. Ouais. Et les logements, etc. Est-ce que ça va être chaud ou pas ? Pour les 29% qui restent.
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, vous avez raison. Donc, ce n'était pas les municipalités qui avaient pris les engagements, c'était l'équipe municipale qui m'entourait, qui n'était pas élue. Hein. C'était bien des propositions, des projets, des promesses de campagne. Et moi, j'ai dans un coin de mon bureau ce document qui, pour moi, est la Bible laïque.
Marqueur,
ouais, le marqueur. On regarde tous les 6 mois où on en est, ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé. Donc, vous avez raison.
Jules Ferry ?
À Jules Ferry, la démolition des bâtiments anciens vient de se finir, pardon, et les travaux du foyer à Doma, c'est-à-dire un foyer reconstruit, et puis les travaux d'Habitat 76 vont commencer cette année.
La maison médicale, donc, c'est en bonne voie. Les tissages de Gravigny, on en parlera tout à l'heure, on peut même en parler maintenant, ça va être transformé en école d'images animées.
Oui.
Pépinière, d'entreprise, logement neuf.
Alors là, vous voyez, par exemple, sur les engagements de campagne, on avait dit qu'on serait très attentif au devenir de cette friche, parce que c'est une friche en plein centre-ville, à côté d'une église magnifique. L'église de Côte-Bec est une des plus belles de la zone, elle est classée. Elle a d'ailleurs à son fronton la mention liberté, égalité, fraternité, ce qui est assez rare. Et nous avions à côté cette friche que mon prédécesseur, malheureusement, n'avait pas préemptée au moment où elle s'était vendue pour une bouchée de pain. Donc j'avais regretté cette situation et j'avais dit... Mais on était prudent, on écrivait un programme de campagne, on ne faisait pas des promesses de perlimpinpin, comme dirait quelqu'un de célèbre, qu'on serait attentif. Et il se trouve que par le hasard des rencontres, des circonstances, et puis d'avoir sans doute un peu de chance, et puis de travailler beaucoup, on est en train, grâce à l'aide de la métropole Rouen-Normandie et de la région, le président Sanchez et le président Morin sont venus très récemment sur le site, on est en train déjà... de sauver le bâtiment. C'est-à-dire que, ça y est, nous avons avec le PFN la maîtrise foncière du bâtiment. D'accord. C'est une magnifique usine du 19e siècle, comme il peut y en avoir des très belles. On ne peut pas toutes les sauver, ça serait vraiment compliqué, mais quand il y a des objets immobiliers de cette taille-là et de cette qualité-là en plein centre-ville, il faut essayer de les sauver. Et donc, nous avons réussi à sauver le bâtiment et nous allons sans doute réussir à installer effectivement une école d'animation et de dessin animé. Il se trouve que dans ma carrière professionnelle antérieure à tout ce que vous avez raconté, j'ai eu un parcours à Angoulême, au Festival de bande dessinée. Et j'ai vu comment l'image animée était devenue une filière, comment Angoulême s'était profondément transformé en accueillant les plus beaux studios d'animation presque au monde, puisqu'il y a trois pays producteurs majeurs, les États-Unis, le Canada et la France, et qu'aujourd'hui nos talents français se font voler par les Canadiens et les Américains, et il manque à peu près chaque année 20% de jeunes formés. Donc il y a vraiment une pépinière d'emploi.
Vers la 3D, tout ça ?
3D, 2D, votre smartphone, vos pubs... Tout ce que vous regardez aujourd'hui fait appel à de l'image animée. Vous envoyez toute la journée de l'image. Évidemment, les dessins animés, évidemment la pub, évidemment les jeux vidéo. Il y a énormément, énormément de débouchés pour l'animation. Et on manque. On a beaucoup d'artistes en France, mais on manque d'artistes qui se forment à des métiers qui sont quand même des métiers industriels.
D'accord, à l'instar de ce qui se fait à Valence avec une école.
Exactement, aussi, exactement. Ouais. C'est un des exemples qui nous motive.
Les logements, le Calier, le Riche.
Alors ça c'est parti. Alors le Cailloriche, c'est d'abord un très bel EHPAD, c'est 240 lits, qui étaient très anciens, ils n'avaient pas été rénovés depuis les années 70. Cette maison de retraite était plus aux normes. Mon prédécesseur a lancé ce projet, je l'ai continué, on a fait un magnifique EHPAD avec, pour le coup j'en suis le président, mais c'est l'ARS, la région, le département qui ont financé ces très gros travaux. Et il se trouvait qu'il restait un petit bâtiment résiduel dans la cour, qui était un ancien bâtiment de logement de fonction, qui n'avait plus d'usage puisqu'on n'avait plus de gens logés sur place. Et donc nous avons eu l'idée avec un bailleur social, un de mes collègues, d'offrir 20 logements qui vont... Donc la démolition commence ce mois-ci, là, donc les logements vont arriver d'ici 2 ans. 20 logements qui seront du logement locatif social classique, sauf que comme ils seront dans le parc de l'EHPAD, ils auront vocation à accueillir plutôt des seniors qui pourront auprès de l'EHPAD aller trouver qui l'entretien du linge, qui de l'animation, qui de la restauration, tout ça dans un parc qui est magnifique à l'entrée de la ville.
Donc on a bien compris que ça allait être bouclé pour 2020. Est-ce que ça va être le cas pour la place Suchelet ?
Alors la place Suchelet, nous avons une réunion publique qui se tient ces jours-ci. Nous commençons la réflexion. Alors je veux revenir sur le pourcentage que vous avez donné tout à l'heure, les 71%. 71% c'est ce qui est bouclé, réalisé, fait. Et dans les 29%, 25% sont en cours. Et donc, c'est le cas de la place Suchetet. Donc, c'est un projet très compliqué parce qu'en fait, on veut rien construire sur la place Suchetet. C'est un très bel espace vert. Mais tout autour, il y a des vieux garages. Vous avez vu sans doute qu'on vient de livrer un nouveau dojo. Donc, il y avait dojo, salle de musculation. Il y avait deux salles autour de cette place Suchetet qui servaient au dojo et à la musculation. Donc, il faut qu'on réfléchisse à leur avenir. Donc, voilà. Donc, on lance. Ça sera évidemment pas fini en 2020. Mais heureusement, il y aura du travail pour le futur maire de 2020. Que ce soit à votre serviteur ou qui d'autre lui voudra bien lui succéder.
D'accord. L'autre volet, c'est l'attractivité sur la métropole de Rouen avec la partie tourisme. Depuis plusieurs mois, on ne parle que de ça, l'attractivité de Rouen et de sa métropole. Il semble pourtant que lorsque nous, qui sommes rois, vu de l'autre côté de la Seine, que ça se passe plutôt bien. Alors, il paraît que ce n'est pas le cas. On doit encore faire des efforts de compréhension, de lisibilité, notamment entre régions, départements et périphéries rouennaises. Alors, est-ce qu'on parle la même langue, mais on parle trop fort, on ne s'écoute pas ? Qu'est-ce qui se passe ?
Non, mais c'est étonnant, la perception qu'ont les gens. Alors là, vous parlez du bassin de
ville. C'est la grosse mode en ce moment, c'est attractivité rouennaise métropole.
Oui, bon, je crois que sur en tout cas pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire l'interface entre la métropole et la région Normandie, ça se passe très bien. On n'a pas les mêmes opinions politiques.
Entre M. Chancès et M. Morin.
Voilà, et puis les élus qui travaillent avec les deux, j'ai cité les deux tout à l'heure, ils sont venus dans ma commune, et ça se passe très bien, on n'est pas d'accord sur tout, mais comme je le disais tout à l'heure, le temps du débat doit être court, et puis à partir du moment où on a débattu, on décide, on avance. Donc ça, ce travail local, il se structure, il faut qu'on fasse attention à la lisibilité, je trouve qu'il y a un peu beaucoup d'agences en ce moment, qu'on risque de perdre un peu nos interlocuteurs, notamment les socioprofessionnels qui ont du mal à se repérer, mais en tout cas, tout ça va dans le bon sens, et les messages envoyés sont des bons messages. Là où on est en difficulté, et moi je m'appuie toujours, vous savez, ça fait 20 ans, une vingtaine d'années que je suis à Rouen, avant j'étais à Bordeaux, et j'avais pas d'image de Rouen. Et j'ai découvert en venant travailler, je suis venu pour travailler, une ville sublime. Donc je la vends d'autant mieux que je ne suis pas, je ne peux pas être accusé de chauvinisme. J'adore Rouen, je trouve cette ville sublime. Elle a énormément d'atouts. Elle est non seulement belle, mais en plus elle est active, elle a de l'emploi. Et donc ça, je le dis. Mais vous savez, quand on a fait une enquête il y a deux mois avec Rouen Normandie Invest
sur l'IFOP,
exactement, on a découvert que 30% des Français savaient pas que Rouen était, pensaient que Rouen était au bord de la mer. On nous confond avec le Havre. Il y a des gens qui savent pas qu'on est en Normandie. Grande partie des Français pensent qu'il n'y a pas d'emploi à Rouen, ce qui est évidemment faux. Et surtout, on leur dit, est-ce qu'il y a une industrie automobile ? 50% disent non. Est-ce qu'il y a des mutuelles ? 50% disent non. C'est quand même qu'on a raté quelque chose sur le faire savoir de ce qu'il y a sur notre territoire. C'est plus facile d'aller expliquer maintenant tous les atouts qu'on a, toutes les possibilités d'emploi qu'on a, parce qu'ils existent, que d'inventer des slogans ou des messages qui seraient plaqués et qui n'existeraient pas. Donc, on a vraiment un travail profond d'image. C'est ce qu'on fait notamment en ce moment sur le véhicule autonome. Vous avez vu que la métropole de Rouen-Normandie, sous l'impulsion de Frédéric Sanchez et de Marc Mation, est un territoire d'innovation avec Transdev, avec la métropole, avec la Matmut, avec d'autres partenaires, sur le véhicule autonome. On va avoir dans quelques semaines...
Au mois de juin.
Oui, au mois de juin, sur le campus du Madrier, qui est un campus assez simple, puisque on est dans une ville moderne, on va dire, avec des bâtiments modernes et des routes modernes. On va avoir des véhicules autonomes qui seront liés au réseau Astuce, et on pourra, avec son smartphone, appeler un véhicule autonome en descendant de son bus pour aller plus loin, pour aller à son école d'ingénieur ou pour aller à son labo de recherche.
Il nous reste 4 minutes, monsieur Bonnater, pour cet entretien. On va parler tourisme pur. Où est-ce qu'on en est, là, de la carte postale de Rouen, de la métropole, etc. C'est les touristes japonais, touristes allemands, c'est Normandie impressionnisme bien sûr.
C'est l'Armada,
c'est toujours et ça sera encore toujours Jeanne d'Arc. Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que Rouen, c'est que ça ?
Jeanne d'Arc, c'est étonnant. Nous, on se l'est beaucoup approprié en Normandie.
On a fait le tour de Jeanne d'Arc ou pas ?
Oui, elle est peu connue en France. Enfin, Jeanne d'Arc est très connue, mais son lien avec Rouen est assez peu connu, donc il y a sans doute quelque chose à valoriser, même si nous avons déjà un magnifique historial qui fonctionne et qui accueille beaucoup de...
Il faut dire qu'elle a mal fini à Rouen, quand même.
Voilà, donc c'est peut-être cette partie-là qui fait qu'elle est plus identifiée à Orléans, effectivement. Le début de saison se passe très bien. Nous avons effectivement, et c'est une très bonne nouvelle, le retour des clients asiatiques, notamment des Japonais. Vous savez, la période d'attentat qui a été horrible, qu'on a traversée, elle est évidemment horrible sur tous les plans, mais en plus, elle est très mauvaise pour le tourisme, surtout quand on est loin, parce que vu du Japon, quand il y a un attentat en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, c'est pareil, ils arrêtent de venir en Europe pendant 6 mois, 1 an. Donc, quand ce temps de latence est passé, ils reviennent, et là, ils reviennent en masse. Et le début de saison, je faisais le point encore récemment avec les équipes de Rouen-Normandie Tourisme et Congrès, le début de saison est très bon, donc les touristes reviennent. On a évidemment aussi un très grand tourisme de proximité, Benelux, Angleterre, Allemagne. Qui sont nos voisins proches.
La métropole avait fixé, je crois, à 4 millions le nombre de touristes qu'elle espère accueillir d'ici 2020. Est-ce que c'est envisageable ?
Oui, on va continuer à avoir un objectif comme ça, chiffré très ambitieux. On avait une difficulté qui est en train de se lever, c'est qu'on n'avait pas assez de capacité hôtelière. On avait, pour donner une comparaison, un chiffre équivalent de chambres d'hôtel à Rouen, deux fois inférieur à celui de Nantes, qui n'est pas un territoire beaucoup plus grand. Et là, ça y est, les projets, vous avez vu, il y a un magnifique projet hôtelier sur les quais sur le 105, un Radisson qui va arriver en face de la gare, un projet porté par la Matmut sur la route de Neuchâtel, un projet de refonte de l'hôtel de Dieppe. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de projets qui naissent et la capacité hôtelière accrue va nous permettre d'accueillir plus de touristes et surtout d'accueillir aussi plus de séminaires et plus de congrès.
Et vous, avec votre nouvelle casquette, vous avez déclaré vouloir vous immerger avec vos équipes afin de mieux comprendre chaque métier. C'est quelque chose qui ne se faisait pas auparavant ?
Mon prédécesseur était là depuis 10 ans, donc il connaissait parfaitement l'office, il en connaissait chacun des recoins et des ressources. Moi, j'étais à ses côtés depuis plusieurs années, mais vous savez, quand vous êtes vice-président de quelqu'un, en tout cas c'est ma méthode, vous ne marchez pas sur ses plates-bandes, c'est le président qui dirige, qui organise son orchestre. Et donc là, effectivement, en avril et encore tout ce mois de mai, je travaille avec les équipes de Rouen-Normandie Tourisme et Congrès, c'est une vingtaine de personnes, un peu plus en période évidemment de touristique, et nous allons à la fois faire des propositions pour notre propre office et puis porter auprès de la métropole, de Frédéric Sanchez, de Yvon Robert, le maire de Rouen, des petites propositions d'amélioration de l'espace public ou de telle ou telle offre touristique qui peuvent améliorer.
Plus de femmes ?
À plus de femmes,
c'est
oui.
Ce que vous avez...
Oui. Bah, j'ai eu la chance de pouvoir faire rentrer une deuxième femme, puisqu'il y en avait une au bureau. Donc maintenant, elles sont deux au bureau à mes côtés. J'ai encore l'ambition de féminiser un peu plus. Je suis vraiment profondément féministe. Moi, autour de moi, ma directrice générale des services, ma première adjointe, mon bureau d'adjoint. J'ai toujours travaillé avec beaucoup de femmes. Je trouve qu'on est... Et j'ai encore vu récemment sur les réseaux sociaux des manifestations public, politique, où il n'y avait que des tribunes d'hommes. Ça m'est moi-même arrivé, il n'y a pas très longtemps, de me retrouver sans m'en rendre compte à une tribune où il n'y avait que des hommes. Et je trouve que c'est un contresens historique total.
Pour conclure, une petite indiscrétion sur l'Armada. Est-ce qu'on en sait déjà un peu plus ? Est-ce qu'on aura l'Hermione ou pas ?
Alors ça, je n'ai pas encore la confirmation. Je vous invite à inviter, et il sera beaucoup plus loquace que moi, Patrick Herr ou Philippe Chastre, les deux dirigeants de l'Armada. Ils travaillent très activement à nous amener le plus et le plus grand nombre de beaux bateaux en Rouen en juin 2019. Juin 2019, ça sera le très grand rendez-vous de l'Armada, qui est à la fois pour nous, les équipes d'Office de Tourisme, une vraie...
C'est une vitrine.
C'est une immense vitrine. On est extrêmement... concentré, mais ça doit être pas un but final en soi. Le but, c'est que les gens qui ne sont pas venus à Rouen depuis une ou deux armadas, quand ils vont arriver sur les quais, ils vont évidemment profiter des bateaux magnifiques, mais ils vont aussi voir que la modernité est au cœur de Rouen, que les projets sont arrivés, que ces quais ont été transformés. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé il y a une vingtaine d'années, on ne pouvait rien faire sur les quais. Il y avait des bâtiments, mais dans lesquels il n'y avait pas d'activité publique. Aujourd'hui, on peut se balader, se restaurer, pique-niquer, passer un bon moment, et demain avec le 105, on pourra faire encore plus de choses. Donc nos quais sont en train de se transformer et notre ville, à son image,
d'accord,
se renforce.
Et tous les ponts seront en fonctionnement, on n'en doute pas.
Et oui.
Merci Monsieur Bonnater d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cette hebdo politique, on vous le rappelle, en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir.
Bonsoir.
Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique.